Good, on est parti. Fait que bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'être pour un autre épisode d'un podcast que j'ai toujours pas nommé. Il va vraiment falloir que je me mette sur nommer mon podcast avec Claudia Hull. Claudia, bienvenue sur le podcast sans nom.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Claudia, tu es nutritionniste, tu as ta compagnie qui s'appelle Complètement Nut d'ailleurs. Tu as aussi un background super important puis très très intéressant à amener en nutrition. J'aime beaucoup ta spécialité parce que pour connaître un peu ton histoire, on va peut-être en parler un peu pour ceux qui ne te connaissent pas justement, mais tu sais, tu as eu des certains troubles alimentaires en bas âge, dans une époque où est-ce que le système médical le traitait, je ne suis pas capable de dire qu'il le traite bien, là, mais qu'il le traitait moins bien que là, mettons. Fait que tu sais, d'évoluer. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas vraiment de traitement pour ça. Fait que tu sais, par défaut, tu t'es spécialisé beaucoup, tu as vécu beaucoup toute la sphère émotionnelle avec l'alimentation, toutes ces affaires-là. Puis, dans une optique, dans une situation de crise comme on est en ce moment, ben le monde se ramasse pas mal confiné chez eux, à avoir peur de prendre du poids, à avoir peur de perdre de la masse, comme tu as dit tantôt. Puis tu sais, l'idée d'être confiné chez toi, ben ça t'expose à beaucoup d'émotions, ça t'expose à une nouvelle situation. Fait que la sphère émotionnelle via l'alimentation devient super importante, je pense. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais jaser de tout ça avec toi pour commencer.
Parfait.
T'as-tu des trucs à dire au monde? T'as-tu des petits conseils rapidement? Ben non, en fait, je pense que ça serait mieux qu'on starte avec ton histoire rapidement. Okay. Fait que tu viens d'où, toi, concrètement?
Ben, en fait, moi, je viens... Ben, le début de mon histoire, c'est que j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 14 ans. J'ai 37 ans demain. Ça fait... Merci. Et que ça fait 23 ans que j'ai le diabète de type 1. Puis, dès que je suis rentrée dans le système de santé comme patiente, en fait, dans ce temps-là, les choses ont changé. Mais dans ce temps-là, le diabète de type 1, c'était quelque chose qu'on contrôlait beaucoup avec l'alimentation, avec des plans fixes. Il n'y avait plus d'espace pour avoir faim, avoir plus faim. Et si tu n'avais pas faim, il fallait que tu manges quand même. Puis si tu avais faim et que tu ne pouvais pas, ce n'était pas un bon timing, tu ne pouvais pas. C'est comme
un
ça.
Bon vieux plat de bodybuilding. Un bon vieux plat.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai 14 ans. Puis, en plus, c'est quand tu arrives dans le système, mais là, c'est dans le cas du diabète, mais ça doit être la même chose dans plein d'autres maladies. C'est que rentrer dans le système de santé, c'est comme si, un peu comme au gym, on a l'impression qu'il faut absolument peser les gens. On aime ça avoir des chiffres. Je suis professionnelle de la santé, je le sais. Là. J'aime ça avoir des chiffres, que ce soit précis, combien au gramme près, combien de millimoles par litre, whatever. Et que là, j'ai commencé à être pesée régulièrement à l'âge de 14 ans.
Pour ceux qui ne savent pas, les millimoles par litre, c'est une unité de mesure du glucose sanguin, en fait, pour ceux qui... Tu peux y aller.
Mais c'est ça, fait que, je suis tombée dans un système qui était bien mesuré, pas d'espace pour un peu l'émotion, en tout cas pas entourant l'alimentation ou la santé. Fait que tout était calculé, puis ça ne m'a pas pris deux semaines après le diagnostic que j'ai commencé à tomber dans l'anorexie.
Ah, c'est chouette, c'est venu après. Moi, je pensais que c'était avant, puis qu'après ça, tu t'es fait. Ah, OK.
Non, l'évolution. Avec le diagnostic, dans le fond, en commençant à calculer mes affaires, ben moi, je les ai calculées en tabarouette. Ouais. Là, j'ai pas dit tabarnak, je me suis retenue. J'ai dit tabarouette. J'ai commencé à tout calculer, vraiment, c'est sérieusement. Puis en plus, avec le. Dans le fond, quand tu as le diabète, souvent, tu as eu une perte de poids avant le diagnostic, qui est beaucoup dû à l'hydratation, mais aussi à d'autres choses. Puis après ça,
oui, c'est vrai, ça arrive souvent, ça. Oui, t'as raison. C'est un des symptômes, c'est une des façons qu'ils ont de diagnostiquer, si je ne me trompe pas, le diabète, dans l'enfant d'autre.
Ouais. C'est okay. Un des symptômes. De la déshydratation, ça, c'est clair, parce que dans le fond, au début, ben, tu sais, j'en profite pour le dire pendant le podcast, parce que c'est quelque chose qui me fait peur là, pendant la pandémie. C'est qu'il y a beaucoup de diagnostics à chaque semaine pendant la pandémie, c'est la même affaire. Hein.
Non, ouais, ça
ne changera pas. Les gens meurent de diabète de type 1 quand ils ne sont pas diagnostiqués. Fait que ça arrive des fois qu'on passe à côté. Fait que si quelqu'un pense que son enfant, puis c'est beaucoup les enfants, mais c'est aussi les jeunes adultes, là. Tout le monde peut être touché par le diabète de type 1, mais c'est beaucoup les enfants jeunes adultes. Fait que si quelqu'un pense que son enfant est un peu malade, puis il va l'isoler, là, mais dans le fond, c'est un diabète de type 1, là, ben, ça se peut qu'il meure. Fait que ça m'énerve un peu présentement dans l'histoire de la pandémie.
Fait que si comment est-ce que les gens feraient pour éviter ça?
Ben, si ton enfant, il a ultra soif, là, on parle d'une soif exagérée, là, parce que là, sinon, tout le monde va dire, ah, il a bu une bouteille d'eau de plus aujourd'hui, c'est pas ça. Là. C'est vraiment une soif extrême. Envie de pipi à l'infini, ça veut dire que tu peux te lever plein de fois pendant la nuit. Si c'est des jeunes enfants, ils recommencent à faire pipi au lit, perdre de poids, puis état général moche. C'est comme ça un peu là, qu'il faut regarder. Fait que bref, c'est quelque chose qui m'inquiète présentement. Là. Dans le système, ça arrive même quand il n'y a pas de pandémie. Fait que...
Ça, c'est une grosse affaire, tu sais, parce que même. Puis là, on pourrait peut-être en parler plus en tant qu'humain qu'en tant que professionnel de la santé, entre guillemets, parce que tu sais, moi, tantôt. J'ai pas de fièvre, j'ai pas mal à la gorge. Puis tu sais, j'ai quand même une certaine peur de tout ça parce que J'étais juste allé faire de quoi, puis j'ai eu comme certaines sensibilités au poumon après. Tu sais, le côté rationnel en moi me dit, t'as pas le coronavirus, t'as juste été allé courir, ça faisait pas qu'il y a longtemps, t'es pas allé courir. Mais tu sais, on arrive avec une certaine sensibilité à cette situation-là, puis à tout ça. Fait que tu sais, c'est dur, ça va être dur de gauger toutes ces affaires-là avec toutes les maladies qui existent déjà, puis ça va être facile de juste crisser tout le monde dans le même bateau, coronavirus, tu sais.
Exact, c'est ça.
Ton point est intéressant, tu sais, d'essayer de garder la tête hors de l'eau, puis d'essayer de garder une certaine idée rationnelle face à ça, ça va être un beau challenge, là, puis ça va être important. Là.
Oui, c'est ça, tu sais, c'est pas le temps de se faire mal, là. C'est pas le temps de se blesser, c'est pas le temps de faire quelque chose qui va faire que tu as besoin d'aller à l'hôpital, mais sauf que si tu as besoin d'y aller, il faut pas juste penser en termes d'isolation, pas isolation, isolement, il faut que tu y ailles, là, tu sais, parce que il va en arriver des maladies nouvelles pendant la pandémie.
Ouais, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que oui. Fait.
Bref, si je reviens avec mon histoire, c'est que dans le fond, tu as une perte de poids liée à la fin, dans le fond, le diabète, tu l'as comme pendant un an avant d'avoir les gros, gros symptômes. Tu as quelques symptômes, puis à un moment donné, ça arrive, bang, tu ne produis plus d'insuline, puis là, tu tombes vraiment en mode soins urgents, là. Tu es en train de mourir, dans le fond. Mais là, il y a une perte de poids importante. Tu sais, à l'âge de 14 ans, tu rentres à l'hôpital, tu commences à prendre l'insuline, et là, il y a une prise de poids vraiment plus élevée que la normale, dans le sens que tu vas faire de l'œdème, tu vas tout reprendre ton eau et plus, puis tu vas te mettre à reprendre du poids que tu avais perdu aussi. Fait que ça crée une bonne prise de poids, puis en même temps, tout le monde te pèse tout le temps, puis tout est mesuré tout le temps. Fait que ça, ça a été comme le petit cocktail parfait pour... puis moi, je suis une personne comme ça, là, tu sais, je suis une personne qui... j'avais un bon profil pour tomber dans l'anorexie, mettons, là. J'ai toujours aimé ça, calculer, puis mesurer, puis...
Fait que c'est hot que quand même t'amènes toute cette idée-là, parce que ça... Ce cas-là illustre assez bien ce que le monde va vivre un peu avec tout l'aspect. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que tout a été mis dans un certain moule qui a clairement favorisé ça, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais, tu sais, ça va vraiment ramener tout l'aspect de négligez pas les prochains jours avec comment est-ce que vos émotions vont impacter votre alimentation. Tu sais, ça va être présent, là. Tu peux pas te mettre la tête dans l'eau et penser qu'il y aura rien, là. Va falloir que tu t'ajustes un peu, je pense, là.
C'est sûr que ça va avoir un impact sur bien du monde, surtout les gens qui accordent de l'importance à leur alimentation.
Ouais,
si quelqu'un est un peu lousse, là, puis qu'il n'a pas un plan dans sa tête d'alimentation, ça devrait être pas si mal pour lui. Mais si quelqu'un pense en termes d'alimentation, pour lui, c'est comme une. Ça fait partie de sa planification de vie.
La façon que les gars keto capotent en ce moment ou non?
Ben, c'est drôle que tu dis ça. Oui, je pense qu'ils capotent. Je pense que oui, tu sais, ça veut dire quoi? Ils sont allés s'approvisionner en avocat, puis en noix, puis en fromage pour 1000 ans.
C'est ça. Le pire hostie d'aliments à entreposer, genre un avocat. T'as comme 15, t'as comme 10 secondes où est-ce que c'est prêt, genre, tu sais. Les gars, ils sont pâtés, là, y'a rien à faire.
Hey, le truc de l'avocat, là, c'est quand il est sur le bord d'être prêt, tu mets dans le friteur. Il va être prêt pour toujours, pendant longtemps. C'est ça ton truc de l'avocat.
Eh ben, regarde, juste pour ça, ça valait la peine de faire un podcast aujourd'hui, je pense. C'est parfait.
Faut pas que ta banque soit trop mou, mais dès qu'il commence à être un peu mou, oh, tu mets au frigo, ça va être bon pour une coupe de temps.
Excellent.
Voilà,
alimentation et moi,
pardon?
Non, c'est good, c'est des excuses.
Et que je pense qu'effectivement, le monde keto pourrait capoter un peu, mais en même temps, je ne veux pas rien dire, là, parce que là, je ne veux pas insulter personne. C'est pas ça. Tout le monde est dans la même situation où ça se peut qu'on soit un peu bizarre. T'sais, moi aussi, là, j'ai eu, dans les derniers jours, je m'étais stocké du beurre d'érable. Quelle mauvaise idée. J'ai le diabète, je ne sais pas, je me suis dit, ah, du beurre d'érable pour les hippos. Du beurre d'érable pour les hippos, j'avais mangé, là, il est déjà fini. Là.
Qu'est-ce qui pourrait mal aller? Des provisions industrielles de beurre d'érable. Ben non.
Moi, je suis une fan finie des produits d'érable. Vraiment. Ouais, là, je me dis, bon, ben, si je fais des hippos, c'est ça que je vais manger. Mais finalement, j'ai mangé ça pour repas. Fait que je me suis dit, pour couper du beurre d'érable, puis comme collation de beurre d'érable, puis pour déjeuner du beurre d'érable. Fait qu'il n'y en a plus du beurre d'érable.
Ben, le bon côté, c'est qu'il n'y en a plus.
Exactement. Mais bon, j'ai passé par-dessus, ça va bien.
La première chose de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit, justement, cette idée-là de. Si tu as un plan, si tu as quelque chose, mais tu vas être plus susceptible à ce que ça brasse un peu. Ça, tu sous-entends quoi? De dropper le plan, d'ajuster ton plan, de comment est-ce que le monde devrait approcher ça un peu?
Je te reviens, je vais finir la petite histoire là, pour faire la boucle. Là. Fait que bref, là, ma petite histoire personnelle, là, je suis tombée dans le calcul, dans le contrôle, tout ça. Fait que finalement, je suis tombée dans l'anorexie pendant un certain temps. Le système de santé était plus ou moins disponible et ouvert parce que dans le fond, le système de santé, tout ce qu'il y avait dans sa tête, c'était le diabète. Fait que tous les gens que je voyais, moi, parlaient en termes de diabète pendant des années de temps. On m'a toujours parlé de diabète. Puis moi, ben j'étais dans l'anorexie un bout. Là, finalement, on s'est un peu fâchés contre moi. J'étais jeune, moi, j'avais 14 ans, fait que je me faisais traiter comme une ado, ce qui est pas correct, là, que moi, je traite jamais les ados comme des personnes différentes. Fait que je me faisais traiter comme une ado qui comprend rien, qui fait pas bien ses affaires, tout ça. Puis finalement, en fait, c'est pas vrai. Au départ, on me disait que j'étais parfaite. Ça sans le vouloir, ils m'ont encouragée. Ça, c'est pas de leur faute. Là. Sans le vouloir, ils m'ont encouragée à pousser dans l'anorexie parce que j'avais un contrôle parfait. Puis finalement, quand ils se sont rendus compte que j'étais anorexique, j'ai eu beaucoup de... Je me suis fait chicaner par des médecins, des nutritionnistes, des infirmières. Puis ce qui a fait que j'ai juste lâché. J'ai arrêté d'aller voir les professionnels de la santé. Puis quand j'ai sorti de l'anorexie, je suis tombée dans la boulimie. Parce que c'est un peu le revers de l'anorexie. Des fois, quand on sort de l'anorexie, il y a un passage obligé qui est hyperphagie ou boulimie. Ou c'est pas obligé, mais ça arrive quand même relativement souvent. Que moi, je suis tombée dans la boulimie, mais la boulimie avec le diabète, c'est pas super. Puis après ça, je suis tombée dans une maladie qui est nouvelle dans le DSM-5. Là. C'est la boulimie avec le diabète. Ça a maintenant un nom, ça s'appelle la diaboulimie. Donc là, je suis tombée là-dedans. Fait que ma façon de compenser les crises d'hyperphagie, de binge, c'était de ne pas prendre mon insuline ou d'en prendre juste un petit peu pour pas mourir, là, parce que zéro insuline, je serais morte. Fait que je me suis rendue malade pendant des années de temps. C'est la maladie la plus mortelle dans les troubles de comportement alimentaire, la diaboulimie. Donc, dans le fond, je prenais pas bien mon insuline. Ça fait que ton corps, il se met comme un peu en mode keto, mais en keto grave, là, en acidocétose. Fait que j'ai commencé à utiliser toutes mes réserves de gras, de muscle, tout ça comme source d'énergie. Je pouvais perdre, dans les moments les plus graves, on va dire, je pouvais perdre des espèces de 28 livres en 2 semaines. Mais ça, c'est comme... Écoute, personne ne peut faire ça en un coup. Là. Je voudrais faire ça maintenant, je pourrais pas. C'est juste que j'étais tellement habituée à être sur le bord de mourir que j'étais capable d'endurer l'acidocétose. Parce que si je tombais en acidocétose présentement, je l'endurerais pas. Là. Mon corps est pas capable de ça. Mais dans ce temps-là, j'étais tout le temps en pseudo-acidocétose. C'est que quand j'avais, mettons, on va dire un bal, là, je pense à mon bal, mais là, je me mettais en mode diaboulimia, je prenais presque pas d'insuline, juste la survie, j'aurais pu mourir. Là. Plein de fois, j'aurais pu mourir. Puis je perdais vraiment énormément de poids. Puis après ça, quand je reprenais mon insuline, je revivais exactement ce que j'avais vécu quand j'ai été diagnostiquée diabétique. Je reprenais plein de poids, de l'œdème, tout ça. Puis c'était dur de s'en sortir là, finalement, au travers de tout ça. Fait que moi, naturellement, ma façon de m'en sortir, je voulais voir des psys. Il n'y en avait pas dans le système de santé. Je l'ai demandé plein de fois. J'étais vraiment pauvre. Là. J'étais une étudiante qui habitait dans un 3,5, dans un sous-sol, dans un 3,5, dans un je sais pas quoi, un demi-sous-sol minuscule. J'avais pas de meubles. Et j'avais un matelas, puis c'est tout. Puis j'étais vraiment pas... Je travaillais chez Subway, fait que je pouvais manger chez Subway.
Ouais.
Puis finalement, c'est ça, j'ai demandé des psychologues tellement souvent. J'ai passé comme 2 semaines à l'hôpital branché sur antibiothérapie intraveineuse parce que là, j'ai commencé à avoir des gros problèmes. Je n'étais plus capable de guérir de petits bobos. Fait que j'avais eu un poil incarné sur une jambe, rien de spécial, mais tu sais... Ça dégénérait à un point incroyable que je pensais perdre ma jambe. J'ai eu une infection dans une dent. Là, ça a monté jusque dans l'œil. J'avais comme le visage tout infecté. J'étais branchée en... Puis malgré tout ça, je recevais quand même pas d'aide psychologique.
Ouais.
Puis j'ai essayé de dire, à un moment donné, au bout de plusieurs années, là, parce que tout ça, ça se passe entre mes 14 et mes 22 ans, j'ai essayé d'en parler beaucoup avec... À la fin, là, au début, j'étais pas capable d'en parler. J'étais pas capable de dire c'était quoi mon problème. Mais vers la fin, j'ai commencé à dire clairement, là, que je m'en foutais de mon diabète, que mon seul objectif dans la vie, c'était maigrir. Puis là, dans le fond, je recevais pas plus d'aide, finalement.
C'est ça. Écoutez Claudia, qui va vous parler de comment dealer avec toute cette situation-là. Elle l'a vécu quand même assez bien au premier plan, tu sais. Puis c'est la force que tu avais là-dedans, je pense. C'est cette idée-là que been there, done that, tu sais. Peut-être pas au niveau où est-ce que les gens vont le vivre en ce moment, clairement pas. Mais tu sais, comme tu dis, toute cette histoire-là, il y a une grosse question de perception de toi, il y a une grosse question... d'événements qui sont pas à ton compte. J'ai ôté ma bébé carotte pendant que je parle, parce que ça se peut que je perde un peu de crédibilité. Mais tu sais, il y a une grosse question de... Il y a beaucoup de monde qui pousse des trucs que tu contrôles pas sur toi, puis c'est... Sans faire des parallèles où est-ce qu'il y en a pas, c'est assez similaire avec comment est-ce qu'on approche tout ça, tu sais.
Tout à fait. En fait, tu sais, il y a beaucoup... Dans le fond, dans toutes les maladies, même si j'ai pas toutes les maladies, j'en ai quand même plusieurs, là, outre le diabète, il y a toujours une forme d'espèce de contrôle, puis les gens du système de santé sont bienveillants, ils veulent bien faire, mais ça fait pas tout le temps bien. Mais on a une façon de cadrer le monde pour dire, OK, si tu suivais ma recette, là, si tu faisais tout ce que je te disais, t'irais bien. Sauf que ça marche pas comme ça, dans la vraie vie. C'est pas faux ce qu'on pense. Comme nutritionniste, je pourrais bien dire, fais exactement ça, prends exactement tant d'insuline, exactement tant de sport par jour, tout ça, puis ça fonctionnerait. Mais ça fonctionne pas pour les gens d'être mis dans un plan. Fait que là, moi, je vais... C'est pendant que j'étais à la fin de ma crise de boulimie, là, à mes 22 ans, je faisais un bac en psycho. Moi, j'ai fait un bac en psycho, puis après ça, nutrition. Vraiment, je suis devenue ce que j'aurais voulu connaître comme professionnelle de la santé. J'ai vraiment...
C'est intéressant comme point, ça.
Ben, c'est vraiment ça. Dans le fond, dans ma tête, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que les gens sont confrontés à ça. Puis c'est grave, les troubles de comportement alimentaire, là c'est grave, c'est de l'anorexie, de la boulimie avec commission d'insuline, mais des pseudo-troubles de comportement alimentaire qui ne sont pas répertoriés dans le DSM, c'est des troubles de comportement alimentaire quand même. Tu n'as pas besoin d'avoir un diagnostic fixe. C'est dans ce temps-là aussi, on dirait qu'on ne se donne pas, moi ça n'existait pas de diaboulimie dans mon temps, mais c'était vraiment ça. On ne se donne pas le droit d'être malade si on n'a pas quelqu'un qui nous a dit « Ok, toi tu es anorexique, toi tu es boulimique, toi tu as de l'hyperphagie ». Mais dans le fond, on a plein de troubles de relation à la nourriture. Ouais. Plein de monde ont des troubles de relation à la nourriture.
Puis cette idée-là est super intéressante aussi avec la situation actuelle. C'était là de se donner le droit que les choses ne soient pas parfaites. C'est, j'aime ton idée, la manière que tu l'amènes, c'est beaucoup. Dans le cas de beaucoup de personnes, l'idée que d'avoir un travail, d'avoir une routine, ben ça, ça va t'amener une certaine structure, puis ton alimentation va fitter là-dedans jusqu'à un certain point, parce que tu as des rendez-vous dans ton horaire, tu as des choses, tu sais. Mais là, de perdre ça, ben là, tu sais, ça change un peu la dynamique, puis ça va changer comment est-ce qu'on va tout approcher ça aussi, là, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ton affaire de « faut que vous donniez un peu le temps de dealer ça, là ».
Exactement. Dans le fond, mon approche, un peu, ça ressemble un peu à l'alimentation intuitive. Moi, j'aime mieux appeler ça de l'alimentation bienveillante parce que l'alimentation intuitive, ça a comme un cadre là, que j'ai pas envie de me donner à 100%, mais ça ressemble tellement que on peut dire aussi que c'est un peu ça. Sauf que pour apprendre à être bienveillant envers soi-même dans l'alimentation, c'est pas la pandémie qui va nous l'apprendre. Ça se passera pas en dedans de 2 semaines.
Ça prend du temps.
Mais on peut commencer à avoir cette vision-là maintenant parce que ça se peut qu'on soit pogné jusqu'au 1er mai, là, c'est ça
ils ont enculé les écoles jusqu'au 1er mai, ouais.
C'est ça. Fait que, tu sais, présentement, dans le fond, les gens qui sont en contrôle peuvent perdre du contrôle. Est-ce que le problème de départ, c'était le fait d'être en contrôle? C'est peut-être ça le problème de départ, tu sais. C'est peut-être pas la pandémie le problème.
Je vais juste te demander de répéter ton idée parce que moi, ça a coupé quand t'as parlé. Ah. Fait que je pense que pour la majorité des gens, ça a coupé aussi.
OK. J'ai dit, dans le fond, que pour beaucoup de gens qui sont en contrôle de l'alimentation, ça se peut que la pandémie et l'isolement social vont les faire perdre le contrôle. Mais là, le problème, on va penser que c'est l'isolement. Mais est-ce que le problème de départ, dans le fond, c'était le contrôle? Parce que l'avais-tu, le contrôle, si ça prend ça pour te faire perdre le contrôle? Est-ce qu'on appelle ça un contrôle? Je le sais pas.
Ouais.
Te rentrer dans une routine obligatoire, tout ça. Moi, personnellement, ça ne me fera pas perdre le contrôle, l'isolement. Le beurre d'érable, ça me fait perdre le contrôle.
Ouais, c'est ça. Fait que cette idée-là, cette recommandation-là, out of the gate, je l'aime beaucoup. Cette idée-là d'un peu travailler sur ta relation alimentaire, je pense que ça va être important là, de t'admettre que ça te plaise ou non, bro, les situations ne seront pas optimales. Puis que la situation en général ne sera pas optimale dans les prochains mois. J'aime ce que tu soulignes ici, je trouve ça vraiment intéressant. Là.
Si, admettons, tu tombes, tu sais, moi, je vais le dire, là, parce que je suis pas parfaite dans cette personne est parfaite, là.
On voit tout
ce qu'on voulait. Mais, tu sais, moi, ça reste que j'ai le diabète. Et que j'ai le diabète pour toujours. Toute ma vie au complet, je vais calculer ce que je mange. J'ai besoin de savoir ça combien de glucides à chaque fois que je le mets dans ma bouche. J'ai besoin de calculer la quantité d'insuline que j'ai besoin à chaque fois que je mange quelque chose. J'ai besoin de savoir à chaque fois que je mange pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse en contrepartie. Et je suis obligée d'avoir une façon de penser qui est structurée.
Ouais.
Mais en même temps, pour me sortir de mon histoire, il a fallu que je laisse aller plein de choses. Puis la première chose à laisser aller quand tu veux apprendre à manger de façon bienveillante ou plus intuitive, en tout cas, c'est d'arrêter de le penser en fonction de poids, de perte de poids. Il a fallu que je me dise, peu importe ce qui arrive, peu importe le poids que je prends, ça fait 8 ans que je suis malheureuse, ça fait 8 ans que je suis en train d'être sur le bord de mourir, que je me cause des problèmes de santé qui vont me suivre toute ma vie après. Peu importe le poids que je vais prendre, c'est supérieur à continuer mon mode de vie actuel dans le contrôle.
Oui, c'est clair.
Fait que là, présentement, le monde qui sont en contrôle, par exemple, qui s'entraînent au gym, ils ne sont pas dans un malheur comme moi j'étais. Là. C'est pas ça que j'essaie de dire. Mais ça se peut que tu étais peut-être un petit peu moins bien dans ton alimentation que tu le pensais.
Mais pour parler à beaucoup de monde qui s'entraîne, tu sais, puis je suis aux premières portes pour parler de ça, parce que je ne sais pas à quel point c'est eux qui vont écouter ça ou non en ce moment, là, mais tu sais... Quand c'est ancré dans ta routine depuis, pour la majorité des gens, des années, c'est un peu une partie intégrante de qui que t'es. Fait que, oui, de perdre ton training, moi, je pense ça se peut que ça rajoute, sans dire que ça va causer l'autodestruction de tout le monde, mais tu sais, moi, c'est un point d'ancrage dans ma vie. Là. Moi, c'est une façon de me resetter, c'est une façon de me ramener sur terre, tu sais. Fait que, de perdre, c'est un peu une pratique de pleine conscience, entre guillemets, genre. Fait que, tu sais, de perdre ça, je sais pas à quel point ça peut frapper pour des personnes, puis je pense pas que c'est la question très importante, mais si tu n'en es pas conscient que cette perte-là de ça peut se diriger ailleurs, par exemple ton alimentation, whatever, là, je sais pas, c'est toi qui connais ça, là, mais tu sais, je pense qu'au moins, il faut que tu te l'admettes un peu, là.
Exactement, c'est ça l'important, je pense aussi, c'est de ne pas être dans le déni, puis de ne pas aussi se taper sur la tête. Tout le monde présentement est stressé, ou presque, en tout cas, ceux qui ne sont pas
Ouais,
stressés.
non, mais pas mal, tout le monde est stressé. Ben, ceux qui disent qu'ils ne sont pas stressés mentent, là, carrément, là. Personne
Ouh,
dit.
ils n'ont rien compris. C'est pas
Ouais,
stressant, ils n'ont pas ce qui se passe. Mais c'est
puis
ça, mais
encore là,
bref.
à quel point c'est pas juste une stratégie de coping, ça, là.
Exact.
Tu
C'est
sais,
ça,
non,
je suis d'accord avec toi.
bref.
Fait que bref, ça pour dire que dans le fond, la perte de contrôle, on va le voir comme un échec là, tellement grave. Ah, j'ai perdu le contrôle de mon alimentation, j'ai mangé toutes les collations que je m'étais mis de côté pour 2 semaines, je les ai mangées en 3 jours. Puis là, on va se taper sur la tête.
Ouais.
Puis là, en se tapant sur la tête, on fait rien de bien, là. Fait que, comme on peut se dire, c'est normal de perdre le contrôle. Il faut arrêter de forcer la reprise de contrôle. Parce que plus tu la forces, plus tu vas le perdre le contrôle. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est pour ça que je dis, là, l'idée, c'est, ça n'a rien à voir avec le poids. Il ne faut pas penser en termes de poids ici. C'est vraiment en termes de d'être bienveillant envers soi-même. C'est normal de perdre un peu les pédales. Puis, ce n'est pas le free-for-all de faire de l'alimentation intuitive ou bienveillante. C'est pas se dire, ah, je mange tout ce que je veux quand que je veux. C'est pas ça l'idée. Sauf que c'est à long terme qu'on peut retrouver notre intuition alimentaire. Fait que ça ne se passera pas en dedans de 2 semaines, mais présentement, ce n'est pas un bon moment. Faut que tu te dises, écoute, ça m'a fait du bien de manger 4 biscuits au chocolat ou je sais pas, 14 biscuits au chocolat parce que j'étais stressée. C'était comme une façon pour moi d'être pas stressée. C'est pas la bonne façon, mais crème, ça m'a fait du bien sur le coup, puis c'est pas grave, puis on continue le reste. Ce qu'il faut pas oublier, tu me parlais que tu faisais des outils concrets. Ce qu'il faut pas oublier, là, pendant qu'on est isolé, c'est de manger. Même si tu as mangé 14 biscuits, mange ton repas pareil. Même si tu as triché, là, tout le monde qui va dire le mot tricher, tu as mangé un sac de chips, il faut que tu manges tes repas quand même. Il faut que tu penses à nourrir ton corps. Puis après ça, tu vas peut-être nourrir ton anxiété avec des biscuits, du chocolat, de la crème glacée. C'est pas la bonne façon, mais c'est une façon qui n'est pas si belle que ça. Là. C'est pas la fin du monde d'avoir mangé un pot de crème glacée au complet. Là.
Dans
C'est ça.
les circonstances, c'est comme quand tu le ramènes en circonstances réelles, t'es comme écoute, man, que tu aies mangé 2 Oreos, c'est peut-être pas la pire chose qui aurait pu arriver en sachant que les bases de l'humanité sont peut-être en train de s'effriter un peu. T'sais. C'est
Exactement.
pas. Dans la
Exactement.
situation d'un gouffre est en train de se créer en dessous de nous, 2 Oreos,
Ouais.
t'as pas de
Exactement. Puis, si on ne veut pas tomber là-dedans, justement, c'est important de manger.
là.
Arrêtons de se dire, OK, je vais manger comme ah, une barre tendre, une pomme, un fromage, des noix. Mange tes 3 repas ou peu importe si tu avais 6 repas par jour. Mange comme tu mangerais normalement, puis ce sera un ajout. Parce que si tu as faim pour vrai en plus, ben là, allô, la perte de contrôle.
Ouais.
Si tu avais vraiment faim avant d'ouvrir le sac de biscuits, là, là, c'est sûr que tu vas le manger au complet. Et qu'il faut manger normalement, il ne faut pas oublier de nourrir son corps. Puis le reste de la bouffe, bien, ça sera pour nourrir l'âme, là, puis ce ne sera pas la fin du monde. Il ne faut pas se tomber dessus pour ça.
C'est ça, c'est qu'on se donne le droit d'être humain, c'est intéressant aussi. L'idée que la situation négative, t'as pas nécessairement la rendre encore pire en te tapant dessus. Ça, j'aime beaucoup ce que tu soulignes, tu sais. Puis j'aime ton idée d'amener une structure même quand ça va pas. Ben, pas d'amener une structure, mais de manger même quand tu l'échappes, mettons, parce que moi, quand je suis stressé, une des premières affaires que je fais, c'est que j'arrête de manger tout le temps. Puis c'est un running gag avec Sophie, mettons, quand on organisait des événements, où est-ce que carrément, tu sais, je me ramassais à jeun pendant 12 heures, genre. Mais juste parce que quand j'ai une mission, quand j'ai de quoi, je veux juste focusser là-dessus, puis j'organise tous mes événements à jeun pour cette raison-là, puis je fais rien d'autre, tu sais. Puis souvent, quand j'ai à perdre du poids, parce que je viens de peser sur mon écran, j'haïs ça, un touchscreen, c'est vraiment de la merde. Je me suis acheté un écran avec un touchscreen sans vouloir un touchscreen, puis là, à chaque fois que j'accroche mon écran, il y a de quoi qui pop, là.
Sûrement que tu peux l'enlever, non?
Sûrement, il va falloir que je mette ça dans pas long. Puis j'avais une compétition de Strongman dans 2 mois, avant toute l'annulation de toutes ces affaires-là, fait que je recommençais à watcher mon poids tranquillement. Pour faire un poids, parce que c'est des catégories de poids.
Excuse-moi, là, moi, je connais pas ça. Il faut que tu payes un certain poids pour faire ça,
Ouais. Donc, dans le fond, il
non?
fallait que je redescende à 176 livres pour
OK.
compétitionner pour la journée de l'événement. Fait que là, je recommençais à coter un peu, mettons. Puis, une des façons que j'avais de coter, c'était vraiment juste d'avoir une structure plus grande. Fait que je mangeais plus régulièrement, tu sais. On parle pas de diète fixe, on parle de rien. C'est juste que je me forçais à manger à des moments précis. Fait que, tu sais, ton idée est intéressante de. Ça va déjà être assez négatif, pas besoin de rajouter une réelle faim là-dedans. Tu sais. Ça, j'aime beaucoup ça, ce que tu dis.
Exactement. T'sais, mangeons pour se nourrir. T'sais, on le sait, là, je pourrais vous dire que si on a besoin de manger dans la vie, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui vont dire qu'on a juste besoin de manger du gras, mais on a besoin de manger un peu varié, on va dire, avec des protéines dans chaque repas, des fruits, des légumes. On va dire que c'est ça, là, la base, là, des légumes, des protéines, puis un peu de glucides ou whatever, beaucoup de glucides, si tu veux en manger beaucoup, de façon régulière. Puis après ça, manger pour le plaisir, là, c'est pas la fin du monde. Là. Ça, c'est une autre affaire, là, que c'est comme si on était encore dans tout ce qui est un plaisir, c'est grave. Manger
Ouais,
pour
c'est
le
ça.
plaisir, là, moi, là, quand je mange des chips, là, je le sais que je les mange pas pour. Je me dis pas, j'ai besoin de ces calories-là, ou j'ai besoin de ce sel-là, ou j'ai besoin de ce gras-là. Ça sert à avoir. Pour moi, manger des chips, pour moi, c'est juste une question de plaisir. Il n'y a rien d'autre. Mais pourquoi c'est grave manger pour le plaisir? C'est
Ouais, c'est clair.
correct, tu sais? Puis,
Le
de
monde a
s'en
tendance à
faire.
le mettre très négatif, là, ça c'est vrai, là.
Exactement. Puis, je comprends, tu sais, c'est que là, dans le fond, quand on parle d'alimentation intuitive, d'alimentation bienveillante, il y a toujours du monde pour me dire, ouais, mais je perds pas du poids avec l'alimentation intuitive, mais ça sert quoi à ça? L'alimentation intuitive, là, ça sert à ramener les gens au bonheur. Puis, moi, j'embarquais pas dans dire que le monde de gym ou le monde qui cote ou le monde de fitness, peu importe, c'est pas correct. J'embarquerai jamais là-dedans. C'est d'autres choses, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
Vous mangez parce que vous avez, c'est votre compétition qui vous carbure à manger d'une certaine façon, à faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à risque de. Je te dis vous, je ne sais même pas si c'est là-dedans, mais en tout cas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas à risque de troubles de relation avec la nourriture. Il y en a beaucoup là, chez les
Ah oui,
athlètes,
c'est
des
crissement
relations.
fréquent dans ce monde-là, là. Tu sais, il y a
Exactement.
tellement beaucoup d'entraîneurs qui se montrent. Ouais, je ne sais pas comment le dire de manière positive, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs qui réussissent à se monter un fanbase parce que c'est juste une façon de camoufler leurs troubles alimentaires, là.
Oui, ça se
C'est
peut.
facile pour eux de rester ses abdos, mais c'est pas une relation saine qu'ils ont avec la nourriture pendant tout, là, je pense. Là. Mais ça, c'est une autre conversation, mais non, je suis 100% d'accord avec toi,
Mais
malheureusement.
c'est une autre conversation, mais c'est quand même la même conversation. C'est que on ne peut pas s'adresser à 100% à tout le monde quand on parle de quelque chose. Là, moi, je te parle d'alimentation bienveillante pour des gens qui sont rendus à se dire, je me suis fait de la peine toute ma vie avec
Ouais.
mon alimentation puis mon corps. Là, c'est aussi ça. Puis, ça me tente plus de
Mais
vivre cette.
la métaphore est intéressante avec ce qui se passe aussi en ce moment. C'est que cette idée-là de, tu sais, je me suis fait de la peine avec la nourriture, ben, il y a probablement du monde qui sont en train de le faire en ce moment. Fait qu'on n'a même pas besoin de reculer dans le passé, là. C'est réalistiquement ce qui se passe en ce moment dans plein de foyers différents au Québec, là.
Exactement. Tu sais, c'est triste d'avoir de la peine ou de se trouver épais ou de se détester parce que tu as mangé quelque chose qui n'était pas dans ton plan. C'est ça qui est triste. Tu sais. J'ai pas le goût de dire telle catégorie de personnes, mettons les keto ou les végés, vegan, les ci, les ça. J'ai pas le goût de dire à chaque personne quoi faire. Juste de façon générale, si tu te rends compte que l'alimentation te rend malheureux, ben peut-être que tu devrais un peu te pencher vers l'alimentation plus intuitive. Puis l'alimentation intuitive, ça ne va pas te faire perdre du poids, c'est pas ça. Sauf que ça va peut-être te redonner du bonheur. Puis ensuite, une fois que tu as atteint l'alimentation intuitive, là, je pense que c'est capable, et qu'on est capable en même temps de faire l'intuition, de connaître, excuse-moi, là, je suis pas tout proche. On est capable d'avoir des connaissances sur l'alimentation tout en étant bienveillant et intuitif. Comme
Ouais.
je disais tantôt, quand je
Mais
mange des chips, moi, je ne pourrais jamais être dans le déni. Comme je disais, là, des chips, là, chaque mot de chip, là, c'est 1 gramme de glucides ou 1,5 gramme de glucides par chip. Je suis consciente de ça et ça m'empêche pas de les manger. Puis ça, c'est comme c'est un miracle, là, si je recule il y a 15 ans, là. Manger quelque chose de pourri pour la santé, je trouve pas ça grave maintenant. Je trouve pas ça grave pour personne. Même le monde qui a le diabète comme moi.
non.
Puis d'abord, d'être devenu comme ça m'a pas fait manger plus de chips. C'est ça aussi que le monde a peur. Dire, ah, si moi je suis mon intuition, je vais manger plein de chocolat, puis plein de chips, puis plein de gâteaux, plein de crème glacée, ça se peut. Mais ça risque d'être temporaire. Parce que ça fait sûrement tellement longtemps que tu t'empêches d'en manger que là, tu tombes dans le revers de la restriction qui est un peu le binge. Puis ça peut durer. Vas-y, excuse-moi, je te coupe, pareil.
J'ai dit, ben non, c'est très très difficile de pas couper quelqu'un par Skype quand on enregistre un podcast. Moi, je l'ai appris il y a 2 jours. Puis, mais cette idée-là est vraiment vraiment intéressante parce que tu sais, ultimement, la métaphore va venir de ça. Tu sais, les gens vont rester fixés dans des réalités qui s'appliquent plus vraiment à eux. Fait que tu sais, dans mon ancienne vie, ben je vais pas appeler ça mon ancienne vie, Chris, c'est pas l'apocalypse, ça, là. Mais tu sais, il y a 2 semaines, j'étais genre telle façon, j'avais tel plan, ça allait bien. Là, je suis plus capable de faire ça. Fait que tu sais. Comme tu as dit, je ne sais pas à quel point c'est du déni ou c'est juste pas accepter le fait que les choses sont plus comme ça nécessairement. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ton idée de il va falloir que tu te donnes une chance, puis il va falloir que tu expérimentes, puis il va falloir que tu testes des affaires, tu sais. Puis
Exact.
ça, j'aime ça, l'idée de se réinventer un peu, là.
Ah ça, j'aime tellement ça ce que tu viens de dire là. C'est tellement important. En essayant de manger plus intuitivement, oui, on va perdre les pédales, la majorité du monde au début, parce qu'on s'est restreint. Des fois, on s'en rend même
Ouais.
pas compte qu'on s'était restreint. Puis c'est pas grave. Écoute, si tu es vraiment malheureux, tu retourneras à tes restrictions. C'est pas parce que tu fais un pas en avant que là, tout est foutu là, dans la vie. Là. Tantôt, je parlais avec une nutritionniste avant de te parler, une amie nutritionniste. Puis on disait, tu sais, des fois, les gens ont l'impression que l'alimentation intuitive, c'est de dire, ah, c'est le free for all. Mange tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, fais pas de sport parce que ça te rend pas heureux, tout ça. Mais c'est pas ça. On va dire là que t'es vraiment brûlé, puis que tu dis, ah, je devrais aller faire du jogging, mais je suis trop fatiguée. Puis que là, faut que tu choisisses. Là, ça, c'est tout un art. Est-ce que je suis tellement fatiguée qu'aller faire du jogging, c'est une erreur où je vais encore plus me fatiguer? Ou au contraire, je suis fatiguée, puis aller faire du jogging, ça va me faire du bien. Ben, tu sais, du quoi? Vas-y. Puis si dans 5 minutes, tu te rends compte que finalement, c'était pas une bonne idée, là, y a personne ne t'empêche de retourner chez vous après. Là.
Ouais, c'est clair. Hein.
Ben, tu sais, tu peux expérimenter des choses sans dire c'est pas pour la vie. Puis c'est difficile, là, lâcher prise, là, quand on commence à dire je mange juste de façon tu sais, tout ce que j'ai envie de manger, aucune restriction. Pour moi, c'est ça, des carottes ou des chips. Je
mange juste ce que j'ai envie. Encore, t'as raison, merde.
C'est ça, des carottes ou des chips, je mange juste ce que j'ai envie. C'est difficile, là. C'est vraiment, ça vient nous chercher par en dedans parce qu'on dit, oh mon Dieu, quand je calcule 10 amandes, là, faut que je mange 10 amandes, là, c'est facile parce que je les ai comptées. Mais là, c'est comme laisser à moi-même. Ben, effectivement, tu vas alors, l'essayer. Alors, puis... Claudia, répéter, ah, ouais, ça coupe un peu, c'est vrai, je t'ai vu geler, mais je sais pas où ça coupe.
Ben, c'est ça, c'est comme je sais pas si le monde le perd en même temps, j'aime mieux qu'on répète deux fois le même 5 secondes.
Que de quand ben, même en fait, ce que je disais, c'est que dans le fond, en mangeant de façon intuitive, oui, on va avoir souvent au début une impression de perte de contrôle total. Mais ça fait partie un peu, c'est comme passage obligé. Ouais. Il y a un passage obligé là-dedans que, oui, tu vas perdre le contrôle, écoute, tu vas peut-être même prendre du poids, si tu étais très restreint, calculé, tu vas peut-être même prendre du poids, mais habituellement, tu vas revenir, ça va revenir correct, c'est juste temporaire. Fait que si ça va bien ta vie, t'as pas envie d'essayer ça, t'as pas à l'essayer, mais si il y a quelque chose qui te rend malheureux, ou tu es tout le temps dans perte de poids, prise de poids, perte de poids, prise de poids, je parle pas de delay pour faire une compétition, là. T'sais, grande perte de poids, reprise de poids, tout ça, écoute, si ça fait, mettons, 8 ans que tu fais ça, ben peut-être que tu devrais passer par l'alimentation intuitive, ce qui inclut que probablement tu vas prendre du poids de façon temporaire avant de retrouver un équilibre.
Mais cette idée-là est intéressante aussi parce que tu ramènes l'idée d'être conscient de l'aspect temporel un peu. Là. De l'idée que c'est facile de se dire « shit, ça va pas bien, c'est ma nouvelle réalité, comment je vais faire pour m'ajuster à ça? » Mais t'es comme réalistiquement, tu t'ajusteras pas à ça des heures, des mois et des mois. Là, puis même si la situation empire, ce qui est quand même une possibilité, sorry guys, là, mais même si la situation empire, ta réalité actuelle ne sera pas ton autre réalité. Fait qu'il faut que tu sois prêt à ça. J'aime ce que tu dis. T'sais. L'idée que ce qui se passe là puis ce qui se passe demain n'est pas la même affaire, c'est une bonne chose. Potentiellement, c'est une bonne chose.
Ben, le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est avec ma maladie, là, qui n'est pas nécessairement la maladie la plus connue, le diabète de type 1. Là, le monde connaît le diabète, mais pas type 1. C'est que dès le diagnostic, on met sur un espèce de plan. Puis il y a des choses que tu peux pas manger, que tu peux manger, c'est calculé, tout ça. Puis moi, là, ma façon de voir le diabète, c'est pas ça. Moi, je leur dis à tous les parents de ne pas du tout restreindre leur enfant, zéro. Puis que tranquillement, pas vite, la qualité de l'alimentation devrait être améliorée par le parent, dans le fond, la qualité alimentaire. Mais d'avoir des restrictions dès le départ, ça va entraîner... Excuse-moi, je pense que j'ai perdu mon idée de ce que je voulais dire.
Ben, t'allais dire que ça va entraîner des troubles alimentaires de se restreindre,
probablement. Ben, oui, on a tout un trouble de relation à la nourriture. Quasiment tous les diabétiques, de ce point, ont une espèce de relation trouble avec la nourriture, mais ça se répare.
Ah, donc, c'est intéressant, ça, je ne savais pas.
Ben oui, ben c'est sûr que nous, écoute, pour nous, un fruit, c'est des glucides. Fait que, tu sais, chaque fois qu'on va manger un fruit, on a besoin d'une injection d'insuline. Fait que tout ce qu'on mange a un impact. Tout ce qu'on mange pas a un impact. Tout ce qu'on mange a un impact. Notre activité physique a un impact. Fait que tout ce qu'on fait, si je suis frustrée, si j'ai de la peine, tout a un impact sur ma glycémie, sur mon besoin en insuline. Fait que c'est vraiment difficile de. C'est tout un art, dans le fond, de vivre avec des vraies restrictions qui sont liées au diabète, puis de vouloir être dans l'intuition.
Là, ouais, c'est clair, ben oui. Parce que c'est pas intuitif par défaut, genre, c'est ça? C'est
exactement. Ben, moi, c'est là où. J'apporte peut-être quelque chose de différent un peu dans l'alimentation intuitive, c'est qu'il existe c'est vrai qu'il y a des aliments qui ont plus de glucides que d'autres, c'est vrai qu'il y a des aliments qui ont un indice glycémique plus élevé, qu'on va absorber plus rapidement, qui ont un impact plus grand sur la glycémie, là, le pic de glycémie. Ça, c'est tout vrai. Ça, on en a déjà parlé ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, ça fait un an, là. J'étais le temps avec mon bébé, tu voulais avoir une section pour faire des taux de sucre.
Ouais.
Bon, ben c'est ça. Mais ça, moi, là, en direct, je ne l'ai pas avec moi, mais en direct, moi, je fais des graphiques de mon taux de sucre. Fait qu'à chaque fois que je mange quelque chose, je le vois, le graphique, tu comprends? Je peux pas être dans le déni. Je je peux pas me dire tous les aliments sont égaux. C'est pas vrai. Je peux pas me dire ça. Sauf que dans l'alimentation, tu sais, il y a un peu ce qu'on dit, c'est de tout laisser aller comme si tout n'était pas grave.
On n'a pas les mêmes priorités. Moi, je faisais ça juste pour prouver que je pouvais crisser ma glycémie dans le tapis et perdre du poids.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment juste ça que j'ai fait. Sérieusement, j'ai mangé comme un attardé. Là. J'ai mangé comme un enfant, mais j'ai tout contrôlé mes calories. Ben et oui. surprise, mon faux, j'ai perdu du poids. Là.
T'as-tu vu le gars qui s'appelle Anthony, je ne me rappelle plus son famille, aux États-Unis, qui a mangé pendant 100 jours de la crème glacée, juste de la crème glacée?
Non. Ben, il y en a quand même des cas comme ça, là, des Super Size Me, ces trucs-là, mais je ne savais pas qu'il y avait la crème glacée, non?
Ben, lui, en fait, il avait fait un calcul, il a calculé, il mangeait de la whey, je pense que c'était de la whey, là, pour les protéines, fait que tant de protéines par jour, tous les jours la même chose, puis le reste de ses calories, mettons, c'était 3000 calories par jour, tout le reste, 100% du reste, c'est de la crème glacée. Puis là, il voulait démontrer exactement ce que toi, tu as voulu démontrer. Puis effectivement, tu vois les photos avant, après, il est comme en perte de poids, là, perte de masse un petit peu, là, malgré qu'il avait toutes ses protéines, puis il a continué à s'entraîner comme d'habitude. Mais il a que mangé de la crème glacée, là, ça, en tout cas, il était... Ouais.
Moi, je le conseille pas, là. Je conseille absolument pas de faire ça. Écoutez, ma vie était de la merde, là.
Ouais,
c'est
ça.
Comme, si tu penses que tu peux, parce que tu peux manger juste de la scrap, tu devrais manger juste de la scrap... Essaie-le, man. Essaie-le juste 3-4 jours. Tu vas être misérable. Tu vas être fucking misérable.
C'est donc bien intéressant. Ça fait partie un peu de l'alimentation. Tu vois, tu t'es laissé le droit parce que toi, c'était une expérience. Et que c'est comme jusqu'à l'infini que tu peux manger de la crap. Et justement, tu n'avais pas particulièrement goût d'en manger. Donnant ce droit-là.
C'est ça
que le monde a peur souvent quand on leur dit il faut que tu en manges. T'sais, moi, j'ai un exemple qui revient souvent parce que ma clientèle me parle souvent de Nutella. Souvent, on me dit, je mange du Nutella à cuillère. C'est comme ils ont un binge. Puis, les binges se ressemblent. Sincèrement, si tu regardes un peu la boulimie, le monde a à peu près tous les mêmes binges. Le beurre de peanut, ça arrive souvent. Le Nutella, je l'entends souvent. Parce qu'il y en a plein des choses comme ça que tu dis. C'est quand tu le vois un peu dans un journal alimentaire que la personne a mangé du beurre de peanut 4 fois dans sa journée, tu dis, oh, peut-être que. Ça veut pas dire, là.
Soit le commandite de Kraft et soit, ouais.
Puis le Nutella, ça, je l'ai vu, le même du monde qui était la nuit, qui mange des cuillères de Nutella pendant la nuit.
Tabarnak.
Ben oui, puis tu sais, moi, j'en ai beaucoup du monde comme ça, là. Puis tu sais, ma clientèle, c'est pas du monde nécessairement qui va aller au gym. C'est plus du monde qui veulent perdre du poids, puis qui ont été dans les restrictions depuis toute leur vie, ou qui ont un diabète de type 2, qui ont été dans les restrictions depuis des années. Puis en fait, tu vois que les restrictions ont causé exactement le contraire. C'est juste, quand tu te lèves la nuit pour manger du Nutella, ça se peut qu'il y a quelque chose de pas correct dans ta journée qui fait ça, là.
Mais tu sais, c'est exactement ça l'idée du podcast aujourd'hui. C'est super intéressant que tu amènes ces métaphores-là qui sont clairement des exemples un peu empirés, entre guillemets, ou loin sur le spectre. Là. C'est pas ça que les gens vont faire ou devenir, mais ce phénomène-là va être présent à un certain niveau. Fait que j'aime l'idée que ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, sérieusement. Là.
Ben, c'est ce que tu dis aussi, c'est parfait. C'est ça. C'est pas parce que ça vous parle pas à 100% que vous êtes pas si pire que ça, que c'est quand même pas ça qui se passe. Ça se peut que ça soit pas un binge de Nutella en plein milieu. Pardon?
Là, j'ai manqué un bon 5 secondes de ce que tu as dit.
Okay. Fait que je vais te demander de répéter. J'ai dit que ce que tu as dit, je trouvais ça intéressant, c'est que les gens qui m'ont écouté, peut-être ils disent « Ah, mais je suis vraiment pas là, je suis pas en train de manger une rangée de biscuits, je suis pas en train de manger du Nutella à cuillère. » Sauf que ça se peut que ça soit plus léger que ça. T'sais, moi, je vous donne des exemples un peu plus extrêmes, mais il y en a d'autres.
Oui, c'est clair.
Bref, le monde qui mange du Nutella à cuillère, en tant que nutritionniste, moi, je leur recommande de manger du Nutella, obligatoirement. C'est ce que je vais donner un vrai exemple. Je vais donner deux vrais exemples. En fait. J'en avais une cliente qui mangeait du Nutella comme ça. Là, en arrière, là, c'est dur de s'arrêter dans le pot, comme un peu moi puis mon beurre d'érable. Ouais. Pot au complet. Puis elle, je lui ai dit, après chaque repas, après chaque souper, excuse-moi, tu vas manger du Nutella, même si tu n'as pas le goût. C'est pas correct, là, je la force, mais en tout cas, on s'entendait bien. Là. C'était pas correct, mon affaire.
L'idée est intéressante.
Mais elle mangeait du Nutella obligatoirement après chaque souper. Puis, écoute, au bout de 2 semaines, là, elle m'a dit, « Hé, là, je t'ai curieux de manger du Nutella. » Bon, merci.
C'est fini. Ouais, c'est clair.
Ça a fini là.
Ouais, c'est ça.
Ça se guérit de même. Des binges, là. Puis moi, je vais te donner un exemple personnel. Comme je t'ai conté au début, une fois, j'étais dans l'anorexie pendant, mettons, on va dire, un an et demi, 2 ans. Puis après ça, en boulimie grave, là, diaboulimie pendant un genre de 6 ans. Puis après ça, je me suis guérie en me laissant le droit de manger tout ce que je voulais, quand je voulais, peu importe. C'est comme ça. Je t'ai suivie, là. Je t'ai suivie En psycho, pas beaucoup parce qu'elle n'avait pas de sous. Fait que j'ai été voir des psychologues spécialisés en troubles de comportement alimentaire qui m'ont donné beaucoup de lectures et je n'avais pas les moyens d'aller plus loin. Mais bref, moi, je me suis guérie comme ça. Mais il y a des choses, il y avait tellement de choses que j'avais coupées dans ma vie qu'il y a des choses que je ne savais pas que j'avais un problème avec.
Et c'est intéressant parce que ça va être ça le réflexe des gens dans la situation actuelle. Beaucoup, je pense que ça va être de se mettre des restrictions parce que, c'est, ils vont faire « Ah bon, là, ma vie a changé, là, j'ai moins de structure dans ma bouffe, fait que pas de pâte, pas de pain, pas de ci. » Fait que j'aime l'idée que tu dis que ça va être contre-productif à long terme. Là. Ça, c'est intéressant comme idée. Là.
C'est contre-productif. Fait que bref, moi, j'avais comme plein d'aliments, en fait, qui sont revenus dans ma vie. Puis à chaque fois que quelque chose est revenu, ça a été la débandade. Là. Quand j'ai regoûté du fromage pour la première fois, parce que là, j'étais rendue à l'université. Fait que là, j'ai eu des colocs. Là. Moi, j'ai eu, sincèrement, 45 à 50 colocs différents dans ma vie. J'étais pas fidèle aux colocs. Ouais. J'ai habité dans des communes aussi.
J'en ai eu deux, moi.
Enfin, j'en ai eu beaucoup, j'étais très patiente. Puis à chaque fois que quelqu'un rentrait un nouvel aliment que je ne savais pas que je m'étais enlevé de ma vie, mettons, je me rappelle du fromage, d'avoir vécu avec le fromage, le sirop d'érable, la crème glacée, par exemple, c'est des choses que je me rappelle. Quand j'ai regoûté du fromage pour la première fois, depuis des années que je n'avais pas mangé, écoute, j'ai mangé du fromage en tabarnak. Ouais. Donc vraiment, sans arrêt. Fait que, bref, j'ai appris avec mon expérience que quand je me rendais compte que j'avais un problème avec un aliment, il fallait que je le mange jusqu'à temps que je sois écœurée. Fait que bref, là, j'étais toute guérie, ça allait tout bien, puis j'ai eu une nouvelle coloc qui a acheté de la crème glacée au pistache, la crème glacée verte, au pistache. Là, j'en ai volé comme une bouchée. J'étais correcte, là, dans ce temps-là, j'étais guérie presque 100%.
Es-tu le style coloc qui vole la nourriture, toi? T'es-tu ça?
Bon, peut-être. Je sais pas.
Ben non, c'est pas moi, ça.
J'ai cette bouchée, là. C'est un gros pot.
Ton pot était fermé, ouais.
Les gros pots, là. Ça paraît ça même pas.
Juste une bouchée dans un pot fermé, ça paraît pas, tu sais. Il y a personne qui s'en rend compte, là, voyons.
Mais en tout cas, dès la première bouchée de crème glacée au pistache, j'ai compris tout de suite que ça allait pas bien, mon affaire, là. J'ai vécu de l'anxiété avec ma première bouchée. Puis je me suis dit, OK, c'est pas vrai que je vais me remettre à vivre de l'anxiété face à la nourriture. Fait que bref, ce que je lui ai dit, c'est Maude, ça s'appelle Maude, on la salue. J'ai dit, tu n'achètes plus de crème glacée du tout, mais je vais en acheter moi, puis tu vas pouvoir en manger quand tu veux. M'emmollez pas, mange tout ce que tu veux. J'ai dit, juge-moi pas. Ouais, puis là, ouais. Je me suis guérie de la crème glacée et je te jure que j'ai mangé de la crème glacée au pistache 10 fois par jour pendant genre 2 semaines. Je mangeais même plus d'autres aliments.
Cette idée-là est vraiment intéressante. J'aime beaucoup comment tu dis, genre, ça l'a généré beaucoup d'anxiété.
Ouais.
Comment t'as fait pour surmonter cette anxiété-là? As-tu des façons sur le moment? Tu sais, je comprends l'idée de t'exposer à l'aliment, mais as-tu d'autres façons de gérer cette anxiété-là un peu? Ou...
Ben, écoute, c'est que là, je l'avais vécu avant. T'sais, j'ai eu de l'expérience, comme je te disais, avec le fromage, le sirop d'érable. Il y a tellement de choses que j'ai réintégrées dans ma vie, puis c'était chaotique, là. Puis plus j'ai essayé de le contrôler, de me dire juste un peu de fromage, tu sais, juste 2 doigts, là, tu sais, 2 doigts de fromage, un point de légumes, puis une paume de main dessus, là. Juste quand j'essayais de faire le calcul, puis de me dire j'en mangeais juste un peu, ça marchait pas. Au lieu d'être guéri en 2 semaines, ça me prenait, mettons, un an et demi à guérir de mon binge de fromage. Fait que j'ai appris avec le temps qu'il fallait que j'accepte que oui, j'allais prendre du poids en mangeant la crème glacée à l'infini, puis que ça allait être temporaire, puis que j'allais pouvoir tourner la page rapidement si je me donnais dans la crème glacée, là. Mais c'est comme ça que je l'ai géré. Cette fois-là, m'a pas créé une grande anxiété parce que j'étais prête. Je l'avais vécu plein de fois. Mais il y a plein d'autres fois avant où ça a créé vraiment d'anxiété. Quand il a fallu que je me débarrasse du sirop d'érable, là, dans ma vie, ça, c'était plus problématique que le fromage parce que ça a un impact sur ma glycémie assez incroyable, là. C'était plus difficile, tu sais, mais comme je te dis, maintenant, j'ai appris comme mon pot de beurre d'érable, je l'ai mangé au complet, puis... C'est la vie. J'ai géré avec de l'insuline, puis écoute, c'est pas vrai que je vais me réveiller en pensant « Ah oui, il y a un pot de beurre d'érable dans l'armoire, puis là, ça m'appelle. »
Mais c'est juste ça, on a sorti beaucoup de trucs, je pense, très, très concrets puis applicables là, pour le monde à partir de là. Le premier, tu sais, je vais essayer de disséquer un peu ce que tu as dit, tu me diras si ça fonctionne pas. L'idée d'être... L'idée de te donner une chance jusqu'à un certain point, c'est l'idée de comprendre, de vraiment te donner un peu de lousse parce que la situation n'est pas optimale, fait que de réduire tes propres attentes via ça, je trouve ça intéressant, premièrement. La deuxième, de faire attention aux restrictions, parce que si tu as tendance à trop restreindre, c'est vrai que ça pourrait mal virer. L'idée de l'exposition consciente à court terme, j'aime bien, bien ça aussi. As-tu d'autres trucs ou d'autres petites affaires que tu pourrais donner aux gens dans cette situation-là, dans cette période-là?
C'est de ne pas oublier de manger normalement.
Ah oui.
Malgré tout ce que tu vas manger de pas correct dans ta tête, manger normalement. Tu sais, moi, l'idée de je vais manger une poutine puis je vais faire 10 km de course après. J'aime pas ça.
Ton non, 10, ton c'est 10 horrible comme relation.
Tu vas lier à ton 10 km que tu as envie de faire, pas parce que tu as mangé une poutine.
Ah ouais, c'est clair. C'est horrible comme façon de penser. Ça va développer une astuce de relation de merde, là, vraiment. Là.
Exactement. Ça veut dire que là, tu mets non seulement la bouffe dans un package deal de merde, mais aussi ton exercice. Parce que si tu n'aimes pas ça, faire ton jogging, là, tu le sais comme moi, là, tu vas le lâcher. Là. Fait que t'es bien mieux d'aimer ça, faire du jogging. Ah, je sais ce que je voulais dire tantôt sur le diabète. Ma
raquette.
C'est bien mieux d'aimer ça, ton mode de vie. C'est ça que je veux dire. C'est que si, là, quand t'es diagnostiqué diabétique, là, le monde t'a fait faire quelque chose qui fait que t'haïs ta maladie, là. Parce que ta maladie t'empêche de manger, puis ta maladie t'empêche de faire du sport, puis ta maladie t'empêche. Écoute, tu vas l'air, le diabète, là, puis là, tu pourras plus jamais le gérer.
Cette idée-là est encore super intéressante avec la même situation actuelle, dans le sens que si tu poses des actions quelconques, puis on peut rester plus large, poses des actions quelconques qui font que ça empire ta perception du confinement ou de l'isolement, ton isolement va être long en tabarnak, bro, là. Ça va être long. Là,
c'est difficile parce qu'il y a des gens, tu sais, qui vivent... Parce que là, moi, je suis quelqu'un de très positif. Je m'entends parler, c'est normal.
Même si je peux pas vraiment changer ça. Anyway, on est parti depuis 46 minutes. Fait qu'on va prendre juste faire un mot de la fin dans 2-3 minutes.
OK, ben bref, tout ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, c'est facile pour moi de vous dire ça parce que c'est du passé. Là. C'est vécu, puis maintenant, peu importe la situation, je m'adapte. Ce qu'on vit présentement, moi, ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, justement, c'est j'ai de l'eau, j'ai de l'insuline, puis j'ai des calories.
Oh, toi, bouffe! Dans ta tête, toi, c'est oh, insuline! Bouffe, puis toi, sont loin en arrière!
Ouais, ben, j'ai marqué, j'ai de l'insuline, des fringues, de l'eau et des calories quelconques. C'est ça que j'ai écrit. Ouais. Ça veut dire que je vais pas mourir. C'est juste ça que ça veut dire. Si je suis enfermée avec mon bébé, mes deux chiens et mon chum, c'est pas la fin du monde, ma situation. Il y a du monde qui vivent des choses vraiment pires. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, mais c'est comme ça que je me dis, écoute, j'ai de l'insuline, on a appelé les diabétiques, on a appelé les compagnies pharmaceutiques, il n'y a pas de pandémie d'insuline. On est correct, il va en avoir encore. Fait, c'est ça, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je me dis, il y a-tu de l'insuline? J'y ai pensé là, la semaine passée, avant qu'ils ferment le Québec.
Mais c'est sûr, ça menaçait ta vie directement.
Hein? Ben oui, puis c'est ça. Fait, bref, ça c'est facile parce que je suis devenue positive, mais c'est pas tout le monde qui est là, là. Il faut aussi se donner le droit de trouver ça difficile. C'est correct si tu n'as pas une vision super positive de la vie comme moi ou comme toi. Je ne sais pas si ta vision est belle. Mais c'est pas grave. On n'a pas à se taper sur la tête pour rien présentement. On fait juste comme y aller au jour le jour. Puis de se laisser le droit de se tromper, de se laisser le droit d'avoir de la peine, de se laisser le droit d'être fâché, de se laisser le droit d'avoir mangé le sac de chips au complet. Puis après ça, on va pas relativiser si on ne saillit pas. Mais si on saillit, on ne sera plus capable de rien relativiser. Puis si on haït la situation, écoute, on est chanceux là présentement. Là. Il y a 181 cas, je pense. On est chanceux comparé à ailleurs. On est chanceux d'être enfermés chez nous. On est chanceux qu'ils nous ont enfermés chez nous avant que ça dégénère. Ouais. Et, bref, il faut le voir de cette façon-là, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pas tough. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des petites déprimes.
C'est un super beau mot de la fin, c'est vraiment parfait, sérieusement. L'idée de conclure ça avec c'est de la merde pour tout le monde, mais donne-toi le droit de vivre tes shit. Là. Moi, ça m'a pris un bon 2 jours d'isolement puis de confinement à juste broyer du noir sur le fait que j'avais littéralement perdu toutes mes affaires avant de passer à autre chose. Puis c'est, j'en parlais avec un de mes amis qui finit son doctorat en psycho. Dans la dernière personne que j'ai vu dans le podcast, c'était comme tu sais, t'es en train de voir ça comme étant négatif, mais t'en avais probablement besoin de ces 2 jours-là. Fait que j'aime comment tu le plugs, là. C'est intéressant. Là.
J'aime comment ce que tu viens de dire. Je l'utilise souvent avec les ados qui ont le diabète. Hey, le diabète, là, c'est de la merde, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette merde-là maintenant?
C'est ça, ouais.
C'est mon mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec
c'est parfait. Ça? C'est parfait. Merci beaucoup, Claudia. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? C'est mon request. J'en profite pour te faire une plug. Si vous êtes diabétique et que vous avez un stress via ça, Claudia donne des conférences dans des congrès médicaux sur ces aspects-là. Fait que probablement une des meilleures expertes au Québec sur ça. Si vous êtes diabétique, vous écoutez, vous avez un lus, n'hésitez pas à contacter Claudia, là, c'est vraiment, vraiment important. Là. Puis où est-ce que les gens.
Alex, quand tu parlais, mais dans le fond, je vais dire, je sais pas ce que tu as dit, là, mais.
T'es insulté.
Pardon?
T'es insulté.
Tu m'as insulté?
Non, j'ai dit que s'il y a des gens qui étaient diabétiques et qui vivaient un quelconque stress via ça, c'était important d'aller te voir, c'est ça que j'ai dit.
Oui, puis moi, ce que j'ai mis sur mon Facebook un peu partout, c'est n'importe qui a un nouveau diagnostic de diabète de type 1 ou même de type 2, là, mais c'est parce que type 1, c'est vraiment la vie qui est en jeu. C'est souvent des enfants. N'importe qui a un nouveau diagnostic présentement, je vous fais pas une consulte en nutrition, mais je vous fais une consulte en tant que patiente. Appelez-moi, là, je vais vous dire que votre enfant, il va aller bien, puis qu'il va pouvoir faire le sport qu'il veut, puis le métier qu'il veut dans la vie. Puis ça va me faire plaisir. Là, j'ai offert, dans le fond, quand mon bébé dort, entre 1 heure et 4 heures, mais pendant la pandémie, il dort pas bien, bien. Mais en tout cas, entre 1 heure et 4 heures, je suis disponible pour aider les gens qui traversent un nouveau diagnostic à savoir qu'il y a un soleil au bout de tout ça.
Et où est-ce que les gens peuvent te contacter?
Dans le fond, sur ma page Facebook Nutritionniste Complètement Nut, mon numéro de téléphone 450-918-4898 ou info@complètementnut.ca. Et ce n'est pas complètement nu.
Ouais.
Complètement nut.
Merci beaucoup, Claudia, d'avoir été là. C'était vraiment apprécié. Si jamais on peut vous assister d'une quelque manière sur le podcast, n'hésitez pas à nous écrire des deux côtés. Ça nous fait plaisir de faire ce qu'on peut. Puis c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Claudia. À une prochaine fois.
Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye.
N'hésitez pas à aimer et à partager le podcast. Si vous avez aimé, il y a probablement quelqu'un d'autre en période de confinement qui a aimé ça aussi. C'est bien important. Ciao, bye.